la déclaration Balfour est la première pierre de cette maison que sera Israël. Il faut recontextualiser, on est peu de temps avant la fin de la Première Guerre mondiale, on sent bien que l'Empire ottoman, ce vieil homme malade, est dans une phase d'effondrement progressif, que l'Empire ottoman ayant collaboré avec l'Allemagne, on sait très bien qu'on s'achemine petit à petit vers un démantèlement de cette vieille question d'Orient et de ce vieil empire, et qu'il faudra se répartir, je dirais, les morceaux du gâteau, et on voit venir progressivement l'idée que Britanniques et Français, qui sont largement présents dans la région depuis un bout de temps, vont se répartir les morceaux. Et cette déclaration Balfour, qui est donc datée du 2 novembre 1917, est clairement la promesse d'un foyer juif en Palestine, sur la terre de ceux qu'on appelle la Palestine, et donc sur la terre de ceux qui deviendront, ou qui l'étaient déjà, encore une fois, selon les polémiques, des Palestiniens. Donc je dirais que au moment où le secrétaire d'État britannique Balfour fait cette lettre, qui sera ensuite publiée dans la presse, à un des importants responsables de la communauté juive britannique, donc Rothschild, qui lui sera et le financier du mouvement sioniste, et il achètera progressivement des terres en Palestine pour petit à petit constituer ce qu'on appelle ce Yishuv, ce foyer juif, qui ensuite, à terme, par regroupement, par guerre d'indépendance en 1948, deviendra le futur État d'Israël. Donc il est clair que cette promesse, qui n'est qu'une promesse au départ, finalement, sera indirectement matérialisée avec l'évolution de l'histoire, avec le mandat britannique sur la Palestine qu'elle récupère. Et puis après, je dirais que finalement, le Royaume-Uni sera probablement un peu débordé, un peu dépassé au-delà de cette déclaration par sa gestion, sa difficile gestion de la région, c'est-à-dire un coup en faisant on appelait des livres blancs soutenant les Arabes, et puis de l'autre côté en soutenant par moments les Juifs et attisant du coup les tensions entre les communautés. Je dirais que le parachèvement de la promesse et de la déclaration de Balfour verra le jour le 29 novembre 1947, quand la Grande-Bretagne, ne pouvant plus gérer cette question et les tensions locales, remettra son mandat aux Nations Unies, et puis après on arrive sur cette question du vote du plan de partage qui sera voté par les Nations Unies avec une répartition, je dirais, et pour ce qui sera l'État juif, et pour ce qui sera ou devait être l'État palestinien, et enfin une zone internationale pour le diocèse de Jérusalem. L'histoire sera différente, puisque le premier conflit israélo-arabe verra évidemment finalement une forme de défiance à ce partage, et on sait qu'aujourd'hui l'État palestinien a disparu et est mort-né, finalement peut-être un peu déjà de la déclaration Balfour, mais surtout ensuite de ce non-respect déjà des Nations Unies et de la résolution 181 des Nations Unies.
Aujourd'hui, la Palestine, des personnages politiques ou des activistes en faveur de la Palestine demandent des excuses au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible ?
Moi, je dépasse un peu ce cadre-là. Les activistes, comme vous les appelez, ou les militants, ou les soutiens de la question palestinienne ou de la Palestine, aussi honorables soient-ils, sont malheureusement, je pense, dans une forme, hélas, de marasme. Ce combat qui dure depuis presque sept décennies du côté de la reconnaissance d'un État palestinien ne voit pas le jour, ne verra probablement, je pense, pas le jour. Je pense qu'il n'y aura tel que le chemin qu'on emprunte et qu'emprunte Israël et qu'empruntent les Nations Unies en ne permettant pas l'application des résolutions et finalement dans une part de politique parfois schizophrène de la part de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire représenter à la fois les enjeux, les défis et les desiderata des Palestiniens, et puis de l'autre côté être dans une action de coopération militaire qui se retourne contre la Palestine depuis les accords d'Oslo. Je ne crois pas qu'une reconnaissance, une excuse, en tout cas au-delà de la déclaration Balfour, s'il y avait une partie d'activité ou d'action sur laquelle les Britanniques seraient responsables, sont évidemment le chaos qu'ils ont mis entre 1920 et 1900, entre 1918 et 1948, c'est-à-dire qu'il était évidemment extrêmement compliqué de gérer la montée des deux communautés et des deux nationalismes dans un contexte mondial favorable à ça. Donc, je dirais, bon, très bien, on peut jouer l'éternelle carte des repentances et autres schémas. Je crois que ça ne change rien fondamentalement aujourd'hui au fait que ce que reprochent les militants de la cause palestinienne sont qu'avant tout, ils voient bien qu'avec la poursuite de la colonisation, avec les positions politiques de droite et d'extrême droite, nationaliste et religieuse du gouvernement israélien et des gouvernements israéliens depuis presque 20 ans maintenant, il n'y a absolument pas de fenêtre de tir ou d'opportunité pour quelque État palestinien que ce soit sur le terrain. On a beau faire de la reconnaissance institutionnelle, de la communauté internationale, la Palestine à l'UNESCO, la Palestine aux Nations Unies en tant qu'observateur, fondamentalement sur le terrain, il n'est aujourd'hui, à mon avis, pas possible de créer un État, et on s'achemine finalement peut-être vers un État binational ou une forme de confédération, je ne sais pas.
Ouais, vous vous dites il y aura pas d'État palestinien,
Bon,
c'est pas possible.
je ne le souhaite pas ou je ne le défends pas. J'observe juste depuis maintenant une dizaine d'années cette évolution. Quand on voit que le nœud gordien de cette affaire est la question de la colonisation des territoires et les 400 000 colons qui sont ou habitants des implantations qui sont en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, on voit bien que l'objectif des gouvernements israéliens est de judaïser cette terre, de judaïser Jérusalem-Est, de judaïser les territoires palestiniens. Quand on voit le chaos et le symbole extrêmement fort qu'a été le retrait de Gaza en 2005 et les conséquences qu'il y a eu derrière, tous les arguments ont été trouvés pour dire il est hors de question qu'on se retire de quelque autre territoire que ce soit demain, car ça jouera contre notre sécurité, car etc., etc., etc. On peut trouver toutes les raisons, mais fondamentalement, je ne vois pas, même par des échanges abracadabrantesques de territoires, si on a construit le mur qui n'est même pas sur les frontières de la ligne verte du 5 juin 1967, je ne vois pas pourquoi le gouvernement israélien déciderait demain de retirer les colons et de se fixer sur la ligne verte qui aurait été la frontière idéale pour qu'il y ait un État palestinien. Qu'aujourd'hui, je constate juste que je ne vois pas, dans ce contexte-là, qui ne bouge pas depuis 20 ans, qu'est-ce qui pourrait faire bouger les choses. Avec l'arrivée de Donald Trump, on est dans un, je dirais, un soutien qui a repris du poil de la bête, si je puis me permettre. Et puis finalement, on voit bien que des chancelleries condamnant timidement certaines actions, comme des incursions, comme des assassinats ciblés, comme des actes parfois meurtriers de la part de soldats israéliens extrêmement violents dans les territoires, on voit bien que cela ne change rien à partir du moment où d'une part, Israël a un soutien américain extrêmement, extrêmement puissant, des alliés dans la région qui sont revenus dans le giron, je dirais, je pense à l'Égypte par exemple, mais par voie de fait derrière, ce sont les États-Unis, et puis d'autres nouveaux alliés qui soutiennent Israël dans la région ou dans le Caucase, et qui voient avant tout l'intérêt de soutien et d'échanges économiques qui prennent le devant. Or, voilà, malheureusement, ou quelques morts, ou un non-respect du droit international ne l'emporte pas forcément sur des relations bilatérales d'État à État.
Pour vous, la réconciliation affichée récente ne changera pas les choses à court terme, en tout cas.
Non, elle s'est faite pour des raisons économiques, parce qu'à chaque fois que le Hamas est à court de crédit, il est obligé de passer par l'autorité palestinienne, ne serait-ce que pour financer les forces de sécurité. Et que même si l'autorité reprend le contrôle sur Gaza, je crois que les émotions, les tensions, les frustrations des uns et des autres feront que ça durera un temps. Ce sont deux visions radicalement différentes du futur, de ce que doit être l'État d'Israël, de la vie des Palestiniens aux côtés d'Israël. Et je vois difficilement comment est-ce que, tant qu'une solution n'est pas trouvée, et aussi pour rapprocher ou se faire se rejoindre et Gaza et la Palestine et la Cisjordanie, on peut arriver à une réconciliation dans un contexte où il n'y a ni espoir et ni avancée significative.